Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International aujourd'hui sur RFI et pour évoquer cette Ligue des Champions, première des dernières soirées des matchs dits de groupe. Et des émotions made in OL. Les Lyonnais se sont qualifiés hier soir, mais au forceps, après un scénario que seul cet OL semble pouvoir inventer. Une certitude, il leur faudra hausser leur niveau au printemps prochain. Mais ils l'ont fait, les Lyonnais, peut-on résumer. Liverpool aussi l'a fait, de même Valence et Chelsea, alors que l'Ajax d'Amsterdam est éliminé. Dommage. Dommage aussi pour l'Inter Milan de Lukaku et Lautaro Martinez, dominé par l'équipe bis du Barça. Dommage enfin et hommage au Mister, monsieur si élégant hier dans son costume trois pièces, monsieur Ancelotti, Carlo viré après une large victoire et la qualification des siens. On le savait, il était assis sur un volcan. Enfin, un point sur la dernière soirée où deux places restent à prendre et qui pourraient échoir à l'Atlético Madrid et au Shakhtar Donetsk. Mais il y a match, match aussi pour du beurre là, c'est pour le PSG qualifié, déjà premier. On l'observe pourtant à la loupe, cette formation de stars capricieuses, en délicatesse paraît-il avec leur entraîneur. C'est ça Dominique Sévrac ?
Bonjour Annie, c'est pas mal ça et nous sommes tant aimés, mais je parle pas de vous et moi, hein. Je parle de Carlo non et nous.
Carlo
nous sommes
et
présents
nous
encore, c'est
vous, pas vrai. Vous l'appelez peut-être de vos voeux, Carlo.
Carletto, quand
hein
il veut.
Hein, quand il veut, eh ben, on verra ça. Salim Bongali est là aussi, notre ami de SFR Sport. Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Philippe Doucet, Canal+, vous êtes concurrent, oui.
Non, ami, j'ai pas fâché. Ami,
bon. Pas fâché du tout.
Ami. Bonjour Philippe Doucet,
bonjour,
ça va ?
Il perd or déjà.
Oh, pas bon. Du tout.
Et vous êtes arrivés tous en courant, en nageant, en voguant.
En marchant.
Pédalant.
En pédalant. On varie les plaisirs en ce moment à Paris, quand on est un peu prisonnier, mais on est là pour Radio Foot. Radio Foot, c'est parti.
Penalty en faveur de Leipzig après seulement 8 minutes de jeu ici à Lyon. Emil Forsberg, l'arbitre est prêt, Anthony Taylor, ça y est, il siffle, c'est bon, il s'élance, Emil Forsberg, la frappe du droit, pris à contre-pied, Anthony Lopez, 1-0 pour Leipzig. Attention, il va tirer, Werner, le pied droit, ouais, c'est rentré, il était pourtant sur la trajectoire. 34 minutes, 2-0 pour les Allemands sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, ça va être dur, hein. Le ballon pour Aouar sur le côté gauche, il est dans la surface de réparation, il se met sur son pied droit et il enroule. Oh la but ! Oh la but de Oussem Aouar, il est magnifique ! Il a enroulé sa frappe, il était très seul sur le côté gauche. Oh là 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 ! Il se relance, les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Attention, Oussem Aouar qui remet dans la boîte, dans la surface de réparation. Ce ballon, ah la but ! Et le but de l'Olympique Lyonnais ! Jean-Pierre Bavois, c'est de Paille qui l'a marqué. Ce but égalisateur pour l'Olympique Lyonnais qui les envoie pour l'heure en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est énorme.
C'est énorme, mon cher Eric Jorin. Quelle prestation vocale, quel but des mêmes
pistes
de Paille.
C'était hier soir sur RFI pour ceux qui suivaient cette soirée spéciale.
Éric Jorin,
je crois qu'il arrive de Lyon, ah là, bon, on va voir. Mais je crois qu'il peut plus parler. Éric Jorin et Hugo Moissonnier, faut dire que, hein, il y a les spécialités culinaires lyonnaises orchestrées par le grand Paul Bocuse. Et puis, il y a les émotions lyonnaises orchestrées par l'Olympique Lyonnais hier soir. Donc, on l'a entendu. Et une nouvelle fois, il fallait avoir le cœur bien accroché. C'est vrai que l'OL devait gagner pour se qualifier et que l'OL était mené de 2 buts et de 2 pénaltys dès la 33e minute. Donc tout paraissait compliqué pour réussir à revenir au score et sans pénalty. Ils y sont arrivés, les Lyonnais, sans jamais se résigner. Écoutez justement Oussem Aouar au micro d'Éric Jorin.
Lorsqu'on se prend le deuxième but, on a eu un sacré coup sur la tête. Je pense qu'on a beaucoup douté, on avait la tête un peu dans le guidon. Après, le coach nous a bien remobilisés, il nous a motivés. Et nous a dit qu'il restait 45 voire 50 minutes et qu'il fallait rien lâcher. Donc, notamment en seconde période, on est revenu avec plein d'ambition et de motivation et ça a été payant. Et c'est comme ça, c'est le football. On sait que dans le football, tout est possible et qu'il y a plein de rebondissements. Ce soir, on en a la preuve.
Oui, la preuve. Il nous la donne souvent, cette preuve que tout est possible et que les scénarios peuvent être rebondissants. En tout cas, sur les 12 fois où ils se sont qualifiés, et c'était Pierre Guérin qui a cherché, qui nous a donné ces statistiques, eh bien, c'était 4 fois pour Lyon, au dernier match. Ils se sont fait 4 finales de groupe, ils en ont perdu une, c'était face à Séville en 2016, mais l'année dernière, on se souvient, c'était à Kiev. Et c'était 5
Oui, c'était la sixième même.
La sixième alors.
La sixième, mais cinquième qualification.
Oui, jusque-là, voilà.
C'est parce qu'il y a eu effectivement un échec.
Exactement. Comment on peut comprendre ça, Philippe Doucet? Ils se font peur, ils ont peur d'eux-mêmes, ces joueurs?
Non, mais il faut séparer une autre époque où Lyon était un très très bon d'Europe et là où ils sont en limite de compétences. Je veux dire, l'OL est vraiment à la limite. Ils sont dans un groupe qui, heureusement, est abordable. Il n'y a pas deux cadors dans ce groupe. Il n'y en a même pas un, d'ailleurs, heureusement. Donc, c'était vrai. Bien utile. Et après, bon, ils sont à la limite. Ils y arrivent de justesse, mais c'est normal. Je veux dire, l'Olympique Lyonnais, dans l'état où il est aujourd'hui, un deuxième club français, en général, vu le niveau aujourd'hui, ne peut pas se balader dans son groupe de Ligue des Champions. Ça n'existe plus. C'est plus possible. Oh.
Mais sans se balader, quand même, on sait qu'ils ont un talent sous le pied, comme on dit.
Et après Depay,
Aouar, très irrégulière.
Les deux buteurs d'hier.
Non, mais pardon, Annie, si on regarde clairement le 11 de Lyon, on a Depay, on l'a tous dit, Anthony Lopez, qui quand même la plupart du temps est quand même un gardien plus que compétent, évidemment. Oussem Aouar, c'est très irrégulier. Puis après, pardon, mais ça reste des joueurs qui sans doute ont une certaine valeur, mais c'est pas du cadre européen.
Donc que ils Lyon... ont eu de la chance.
Oui, mais que Lyon soit dans le top 16, j'ai envie de dire, Lyon a réussi sa saison européenne. Ouais. Déjà ?
Bien sûr.
C'est un fait, en fait. Là, Lyon, maintenant, c'est
11
que du
millions,
bonus.
Je crois que c'était, pour le club. Donc, effectivement,
mais
c'est
pour
Lyon,
c'est
réussir.
Désormais du bonus. S'il y a un bon tirage, peut-être que. Et même s'ils sont éliminés, ce sera déjà un 8e, ce sera déjà très bien pour eux.
Dominique, est-ce qu'avoir concédé 2 pénaltys d'entrée de match, c'est quand même pas mal. Est-ce que ça montre justement quand même une certaine limite et une certaine aussi nervosité de la part des joueurs?
J'ai envie de vous dire qu'il y a une forme de fragilité mentale, mais comme il renverse les résultats et qu'il y a cette permanence du haut niveau de la qualification, parce que Lyon a un ADN de se qualifier quand même dans les joutes européennes, ils savent faire, ils l'ont montré, que ça soit un grand OL ou un petit OL, comme en ce moment. Donc, ils ont aussi des qualités mentales, mais parfois elles disparaissent, combinées au fait que Rudy Garcia, lui-même dans les grands rendez-vous, il passe en général au travers, les rendez-vous même du championnat de France. Après, est-ce que Lyon c'est moins fort que Valence? Est-ce que Lyon c'est moins fort que Leipzig, des deux qualifiés pour les 16e de finale dans l'effectif? Par exemple, si on compare, vous avez dit Depay on a ajouté Aouar, on a ajouté éventuellement Lopez, le gardien, mais vous n'allez pas trouver une pléthore de grandes stars non plus dans les deux clubs que j'ai cités là, à part Werner peut-être. Voilà, donc c'est pas non plus hyper illogique que Lyon soit là, et je suis quand même pas d'accord avec Philippe sur le fait qu'il n'y avait pas de cadre dans ce groupe-là, c'est vrai, mais moi je pense que ça leur aurait fait du bien, il a dit tant mieux. Moi je pense que quand il y a Manchester City, ils peuvent parfois se hisser à hauteur de l'événement.
C'est pas faux,
que ça leur aurait fait du bien, ils se seraient bougé un peu plus le popotin.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, ça a été extraordinairement serré. Toutes les équipes étaient à peu près du même niveau. Parce que
le
Zénith finit quatrième, ils auraient pu être deuxième à la place
Zénith
de Lyon. Et inversement,
battu par
ça
le
se joue
Benfica,
à rien.
Qui est 4 points d'écart entre le premier et quatrième, c'est très peu au final. Mm-hmm. Hein. Évoque la densité de ce groupe.
D'ailleurs, c'est l'équipe la plus faible qualifiée hier, mais la plus faible déjà
en
au moins.
En nombre de points,
voilà,
dire.
En nombre de points, exactement.
Oui,
8
bien
points. Et c'était celle qui en a le moins. D'ailleurs, ils ont fait un parcours presque facile à retenir. En tout cas, 2 victoires. De nuls et de défaites.
Oui,
donc,
c'est dire quand même que
c'est
Lyon.
C'est quand même assez miraculeux.
Oui, et alors d'un côté, Dominique le disait, effectivement, s'il y avait eu un gros, ça les aurait sans doute bougé. La saison dernière, on l'a vu face à City quand même. Lyon n'avait pas perdu face aux Sky Blues, mais d'autre côté, heureusement qu'il n'y a pas eu de gros, parce que face
à un
gros.
Il n'y avait qu'une place sinon.
Ouais, non, mais parce que quand on voit le niveau au final de cette OL. Les talents qui étaient là la saison dernière, Nabil Fekir qui était là dans les grands matchs, ou même Maxwell Cornet qui avait été brillant aussi dans ces matchs face à City.
Ndombele,
évidemment. Mais ces joueurs-là, aujourd'hui, je ne les ai quasiment pas vus, mis à part Depay. Donc.
Mm-hmm. Ouais. Bon, en tout cas, Lyon s'est donc qualifié. On verra ce qu'il arrivera pour cette équipe, évidemment, dès les tirages au sort. On aura une idée de leur. Peut-être pas, de leur futur.
Ils seront dans les petits.
Le Real Madrid.
Bah oui, parce qu'ils sont deuxième de leur groupe.
Ils seront dans les petits de ce tirage, mais bon, après allez savoir.
Oui, mais encore une fois, j'insiste, Lyon, c'est tout bénef maintenant. Lyon a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire passer en huitième de finale. Désormais, effectivement, ça peut être Liverpool, ça peut être un plus petit premier, entre guillemets. Après, pour
Lyon, à part c'est Valence, il n'y a pas de petit. Hein.
Voilà, exactement. Entre Valence, guillemets, et... Valence, Dominique le disait, c'est vrai que c'est un premier qui semble un petit peu plus touchable que d'autres.
Ils n'ont gagné qu'à Chelsea et à l'Ajax, donc c'est une petite équipe.
Oui, c'est que l'Ajax.
C'est une petite équipe.
Après, exactement, vous avez raison, Philippe.
Sur un match aller-retour, ils ont quand même peu de chance, mais bon, c'est le rapport de force et il est dans deux mois, donc on verra. Mais là, a priori, ils peuvent faire un exploit, deux exploits, ça me paraît compliqué.
Ils sont un peu capables
en tout cas, ils sont achetés une paix, une paix immédiate. Bah, très
ça,
capital,
ça pas,
parce que,
ouais.
Non, ouais. Ça ne se voit pas avec les supporters.
Justement.
La paix,
ça ne se voit pas avec le comportement ahurissant des supporters, mais. Au moins, normalement, ils vont pouvoir travailler pendant deux mois et il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à faire.
Alors, peut-être que c'est aussi les hauts et les bas de cette équipe ces derniers temps qui irritent finalement les supporters et qui les met dans cet état-là. Mais on a l'impression que ces supporters lyonnais qui s'en prennent donc très nommément actuellement au défenseur brésilien, défenseur central qui est Marcelo, avec ce drapeau hier, je ne sais pas comment dire, cette banderole où il était marqué « Dégage, hein, Marcelo », et c'est ce qui a provoqué toute cette bagarre en fin de match. Est-ce que ils sont particuliers les supporters de Lyon, Dominique ? Parce que pendant quelques temps, au moins deux ans, leur tête de Turc, à eux, c'était au départ. Et en plus, c'est toujours très ciblé. C'était Bruno Genesio, l'entraîneur.
Il y a une dégradation, Annie, des rapports entre les supporters de Lyon et le club depuis plusieurs années. Parce que moi, je me suis...
Parce qu'ils ont plus des bons résultats ?
Claude Puel, ça a commencé sous Claude Puel déjà, avec des menaces physiques, des tags sur la maison. Ça a continué avec Bruno Genesio, Rudy Garcia, qui avait rien fait quand il était à l'OM pour être bien accueilli, a été mal accueilli. Désormais, ce sont les joueurs qui sont pris pour cible. J'ai discuté avec un ami qui était en tournée, un comédien qui était à Lyon récemment, qui est donc allé voir des matchs. Il m'a dit c'est ahurissant, en fait. L'ambiance est très très mauvaise dans le stade. On ne s'y sent pas bien. Les gens ne font qu'insulter. C'est un jour où Lyon a gagné. Les gens ne font qu'insulter les joueurs, font qu'insulter l'entraîneur. Il a dit c'était une expérience désagréable de vivre ce match, en fait, parce qu'on n'entend que ça.
N'y a-t-il pas une dégradation globale ? Parce que c'est pas que à Lyon. Hein.
Tout à fait. Alors lui, il a fait Saint-Etienne aussi. Hein. Il n'est ni supporter de l'un ni de l'autre. Il a trouvé l'ambiance complètement géniale.
Oui, voilà. Et puis à Marseille, apparemment, ce qu'on a vu ce
donc
week-end...
Donc ça dépend un peu, quoi. En fait, je ne voudrais pas généraliser. Hein.
Juste en ciblant bien le cas d'hier, c'est quand même la première fois, alors j'ai pas un souvenir comme ça qui me vienne à l'esprit, d'une équipe qui se qualifie à la dernière journée, et l'image qu'on retient au final, c'est bagarre entre supporters et joueurs, en tout cas Discord, et on a vu ce qui s'est passé. C'est ça qu'on va retenir au final. Ils se sont qualifiés à l'arrache, ils sont dans les 16 meilleurs européens de la saison, et au final, ils se bagarrent à l'issue du match. C'est invraisemblable.
Mais c'est pour ça que je me demandais si c'était le fruit d'une équipe qui est chaque année moins forte, quand même, depuis effectivement l'époque Puel et depuis qu'ils n'ont plus été champions de France.
Après, ils ont le droit d'exprimer leur opinion, quand même, elle n'est pas bonne ou elle est idiote. Marcelo dégage, ce n'est pas une façon de parler aux gens, mais bon, pourquoi pas, si c'est leur avis, et les joueurs ont aussi le droit de prendre la banderole pour montrer un désaccord avec ça. Tout le monde a le droit d'être en désaccord avec une opinion, il n'y a pas raison.
Mais là où Salim a raison, c'est l'opportunité de sortir cette banderole alors que Lyon vient de se qualifier.
De rentrer sur la pelouse,
c'est ahurissant. Ça dénote une dégradation invraisemblable.
Ils ne sont pas là pour le foot.
Des rapports, ils ne sont pas là pour le foot, ils n'aiment pas le foot, ces gens-là. Ils sont là pour montrer qu'ils sont importants, qu'ils veulent peser sur les choix. Ils ont pesé remarquablement en faisant partir Genesio. Ça a été une idée absolument géniale qui a mis le club en extase.
Mais ça, ils le diront
jamais.
De lui,
c'est génial.
Ils
n'avoueront qu'ils se trompent de fond en comble.
C'est une antienne des supporters. C'est le club est à nous. Nous sommes là. Vous passez, les dirigeants, les entraîneurs. Sauf que moi, je suis pas un fan absolu de Jean-Michel Aulas, mais à la fois c'est une réussite économique et boursière indiscutable, mais il a su, il me semble, garder un esprit familial, je trouve, à Lyon. Il y a du Bernard Lacombe, il y a du Gérard Houllier, il y a Florian Maurice. Il a su conserver Lyon. Je le vois pas comme le Paris Saint-Germain à Lyon. Je vois pas un club multimillionnaire fondé que sur l'argent, qui pense qu'à l'argent, les joueurs viendraient toucher leur chèque, tout ça. Je vois, évidemment, c'est du business, hein, mais je vois encore un esprit familial. Donc je comprends pas pourquoi
mais ça prouve que cette antienne, elle est fausse. C'est une excuse pour des groupes de supporters de marquer leurs besoins, leur envie de pouvoir à travers des choses qui se passent aussi bien dans la rue et ailleurs dans la société.
Jean-Michel Aulas, en tout cas, a dit qu'il y aurait des sanctions.
Déjà des sanctions. Alors, semble-t-il, contre Marcelo aussi, puisque bon, après, il s'est présenté devant le public avec des gestes obscènes de sa part. Sanctions envers ses supporters.
On peut comprendre, quand on est touché comme ça.
C'est un homme.
C'est pas bien.
Mais surtout, c'est souvent lui.
C'est lui qui est très ciblé, vous avez raison.
Très ciblé, d'ailleurs,
précisant qu'il ne jouait pas. Il est rentré à 5 minutes de la fin. Et la seule chose qu'ont retenu les supporters lyonnais, c'est d'essayer de faire dégager un mec. C'est ahurissant.
Deux choses que Rudy Garcia pourra peut-être plus l'utiliser.
Surtout à domicile.
Ça crispe tout le monde comme ça.
Selon le confrère de l'équipe, déjà Marcelo, son métier voudrait quitter Lyon maintenant par rapport à sa famille aussi, on peut le comprendre. Et puis hier, quand même, une image forte après le match, quand on voit Depay en interview, notamment quasiment les yeux rouges, vraiment, avec son interview et ses propos forts. Enfin, quand vous avez votre meilleur joueur, parce que Depay est votre meilleur joueur qui a cette réaction-là, enfin, peut-être qu'il n'a pas envie de rester très longtemps à Lyon.
Bah oui, c'est
donc, attention aussi à l'OL au final et à ses supporters qui sont là parce qu'il y a Depay. Attention,
les dirigeants doivent faire quelque chose.
Grand joueur et qu'ils joueront avec une mauvaise équipe,
que personne ne voudra venir
dans sa poule de Ligue des Champions s'ils se qualifient pour la Ligue des Champions.
Exactement. Autre qualifié de la soirée et avec panache, le tenant du titre Liverpool ne choisit pas entre Ligue des Champions et Première Ligue, même si on fait des débats autour de ça. En tout cas, hier soir, ils n'ont pas choisi. La qualification est venue en deuxième mi-temps. Ils se sont un peu fait peur en première. C'est vrai que face à eux, ils avaient une belle équipe de Salzbourg. En tout cas, c'est des pieds des joueurs africains que sont arrivés les buts. Naby Keïta et Salah, avec un Sadio Mané virevoltant et à la baguette, victoire 2-0. De quoi est bien épaté le coach Jürgen Klopp.
Dieu merci, je n'ai pas à essayer d'expliquer comment Salah a marqué ce but. C'était certainement l'occasion la plus difficile qui s'était offerte à lui. Il a très bien joué, mais n'a pas pu marquer dans des situations beaucoup plus favorables, celles qu'il ne rate habituellement pas. Pourtant, il est resté concentré et ça lui a permis d'inscrire un but aussi décisif et très très difficile. Un but qui en dit probablement beaucoup plus sur lui que tous les autres qu'il a marqués jusqu'à présent. Rester concentré pour bien conclure, c'était absolument génial. Un but très très difficile, mais conclu d'une façon sensationnel.
Salim, les Reds donc toujours là pour défendre leur titre, mais les Reds et Salzbourg ont offert un super match.
Oui, les deux équipes ont voulu jouer, ont joué le jeu alors que Liverpool ne pouvait se contenter d'un nul. Sauf que on le sait et depuis que Jürgen Klopp est là, Liverpool ne sait pas tenir un résultat. Donc Liverpool a besoin de jouer et en face Salzbourg avait besoin de jouer et de gagner aussi. Donc au final, ça a donné de l'espace et des opportunités des deux côtés. D'ailleurs, Jürgen Klopp, on l'entend avec le sourire là, mais en première période, il n'avait pas sourire parce que les Autrichiens ont eu des opportunités, ils se sont approchés. Minamino, Haaland, d'ailleurs Haaland qui est le meilleur buteur de cette équipe et qui hier était un peu gauche quand même.
On voyait à la fin du match,
il s'est un peu loupé aussi. D'ailleurs, avant le match, il avait un peu parlé. Alors, certains disons avec humour, en disant notamment je vais marquer un triplé. Oui, même avec humour, il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas forcément dire.
Non, mais il avait marqué en field, c'est pour ça qu'il s'est senti un peu.
Malheureusement, ils avaient perdu ce jour-là. Ouais. Bref, Liverpool a fait ce qu'il fallait en tout cas sur cette partie grâce à ses cadres. Comme quoi, Jürgen Klopp, il n'a pas forcément fait tourner. Oui, aujourd'hui, il ne préfère pas Champions League ou Premier League, il veut gagner les deux.
Mais on le connaît, Jürgen Klopp. Hein, Philippe ?
Oui, mais Liverpool, évidemment, jouera à la Ligue des Champions. Il n'y a pas un club qui néglige la Ligue des Champions.
Encore moins qu'on est tenant du titre.
Et normalement, il ne devrait pas y avoir de club qui néglige le championnat. Normalement. Bon. mais bon, les mœurs ont changé. Mais en tout cas, la Ligue des Champions, il n'y a aucune ambiguïté. La Ligue des Champions, évidemment. Évidemment que Liverpool. Liverpool a une vraie culture européenne. Oui. C'est pas du fake.
Bah, oui.
C'est
ils ont un beau palmarès.
Histoire, ils ont le palmarès et ils ont toujours eu une envie européenne bien plus forte même que les autres clubs de ce pays.
Ils ont 300 points d'avance sur Leicester. Vous pensiez quand même pas.
Pardon de lui dire qu'il y a d'autres équipes qui ont parfois 300 points d'avance sur le deuxième et qui parfois.
Des équipes qui sont qualifiées à la troisième journée sur les six, c'est ça?
Quatrième, on l'a bien noté, au premier juré.
C'était pas à Bruges qu'ils se sont qualifiés?
Non, justement, parce que le Real avait fait un bon résultat à Galatasaray.
D'accord, ils étaient quasiment qualifiés.
Oui, quasiment.
Ah, quasiment à la troisième journée.
On y viendra, vos équipes là, auxquelles vous faites allusion. Vos équipes. Dominique. Non, mais celle dont vous êtes spécialiste.
Je suis quelqu'un de fidèle. Je n'ai qu'une équipe, je n'ai qu'une chose.
Quelle équipe?
Paris Saint-Germain. Je suis fidèle.
Ah bon. Les vainqueurs, en tout cas, ils sont là. Mais Dominique, peut-être qu'on peut déplorer la disparition dans cette compétition-là, parce qu'ils restent sur la scène européenne, mais des si séduisants demi-finalistes l'an passé, Ziyech, Tadic, Onana, qui vont devoir se contenter de la Ligue Europa. Je veux bien sûr dire L'Ajax Amsterdam qui a perdu hier à domicile face à Valence 1-0. On pensait qu'ils y arriveraient chez eux et ils n'y sont pas parvenus.
Oui, c'est surprenant.
Une soirée sans, ils ont raté beaucoup de choses. Bah, aussi,
c'est... C'est toute la magie de cette compétition qu'est la Ligue des Champions. Pochettino est allé en finale, il est déjà viré la saison suivante. Et on est là sur la même année, hein, on est en 2019 toujours. L'Ajax Amsterdam est allé en demi-finale avec des joueurs extraordinaires dont certains ne sont plus là, comme De Jong qui est à Barcelone. Mais ils sont quand même maintenus avec Ten Hag, un entraîneur que le Bayern désire absolument, qui a 52 ans, qui a une renommée fantastique en Europe, elle va pas s'estomper parce qu'il est éliminé. Et je pense maintenant qu'ils sont un candidat naturel à gagner la Ligue Europa. Ils sont allés en finale il y a pas longtemps. Ils ont perdu face à Manchester United. Donc, je crois que c'est ça, hein.
Oui, tout à fait.
C'est toute la fragilité du foot. Ouais. Vous étiez pas les meilleurs du monde il y a 6 mois et vous êtes devenus des bidons aujourd'hui. Je le pense pour Pochettino, je le pense pour l'Ajax. Ça s'appelle simplement le foot.
Oui. Mais c'est vrai que pour le spectacle, peut-être on peut le regretter parce que ils avaient offert des matchs incroyables l'année dernière. Philippe, on se souvient notamment.
C'était un retour aux sources, un retour aux sources exceptionnel.
Du football hollandais.
Et déjà l'an dernier, si vous vous souvenez, leur limite, c'était souvent à domicile, où ils avaient un peu plus de mal. Et malheureusement, c'est là aussi qu'ils ont pêché. Ils ont perdu contre Valence, contre Chelsea. Et c'est là que la qualification leur échappe. Bon, ils ont fait un parcours. À côté de ça, ils ont fait quelques matchs exceptionnels. Ils ont fini avec 10 points. Mais voilà, le jeu de la Ligue des Champions, c'est comme ça. Ça se juge à l'intérieur d'un groupe.
Plus de points que Lyon.
Plus de points que Lyon, mais c'est comme ça.
Je vous rappelle, à Chelsea, ils mènent 4-1 quand il y a une décision arbitrale, comme quoi les décisions arbitrales avec l'arbitre qui donne 2 rouges sur la même action. Deux cartons rouges. Donc l'Ajax est à 9 et Chelsea revient finalement à 4-4. Ça joue aussi sur ce genre
de... l'arbitre ne s'est pas trompé, ça.
Non, l'arbitre ne s'est pas trompé.
Il a appliqué la règle.
Deux jaunes,
un peu sévèrement.
Aussi abrupt, c'est vrai que ça a surpris. Mais bon, effectivement, l'arbitre ne s'est pas trompé. Mais juste, en tout cas, l'Ajax reverse en Europa League. Comme quoi, il y a peut-être un gros qui va vraiment la jouer à fond, l'Europa League.
Oui, mais ils ne seront sûrement pas les seuls. On va y venir, parce qu'il y en a d'autres qui vont se retrouver en Europa League. En tout cas, Valence est donc passé avec Chelsea. Chelsea vainqueur de Lille hier à Londres sur le score de 2-1. Le groupe était donc assez équilibré et il n'y avait que 2 places pour sans doute 3 prétendants. Éliminé aussi.
Lille n'avait pas le niveau. Non, c'est vrai, non, mais ça peut arriver. Lille n'avait pas le niveau.
Complètement. Ils ont un point, si je me trompe pas. Eux, ils ont un point et ils ont perdu hier à Lille. Bon, ils ont marqué, Loïc Rémy a marqué, mais c'est vrai qu'ils ont perdu 2-1. Éliminé aussi. Eh bien, l'Inter d'Antonio Conte, alors on la voyait peut-être passer, cette belle équipe flamboyante et première de Serie A, battue chez elle à Milan, battue par le Barça sur le score de 2-1. Antonio Conte a bien du mal à l'admettre.
C'était un groupe très difficile, peut-être le plus difficile à ce stade de la Ligue des Champions. Nous sommes vraiment déçus, car nous avons eu la chance de nous qualifier pour le tour suivant. Si nous jetons un œil sur les matchs de Barcelone ou de Dortmund à domicile, nous devons être très déçus de la rencontre. Nous avons eu de nombreuses occasions de marquer, mais le football est simple. Vous devez mettre le ballon au fond des filets.
Salim, qu'est-ce qui s'est passé pour cet Inter face à un Barça qu'on avait dit Barça B? C'était un Barça sans Messi. Il y avait juste Griezmann et l'Anglais qui surnageaient un peu. Sinon, de l'équipe A, on avait Todibo, Umtiti. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et le pire, c'est que le Barça, par séquence, a joué comme si c'était l'équipe A. Hein. Vraiment, on a eu des séquences remarquables.
On va y venir, c'est peut-être la future équipe
Messi,
A,
en fait,
sans doute.
Il est là, en fait. c'était impressionnant de voir ce Barça-là, notamment en seconde période. C'est vrai que le Barça marque très vite. On se dit, en plus, au même moment, Dortmund est en train de mener 1-0. On se dit, c'est en train de bifurquer. Et d'ailleurs, en une minute, à un moment donné, Prague égalise, l'Inter égalise. Là, on se dit, ça bifurque dans le bon tempo. Et Lukaku va enfin montrer que dans les très grand match, il est là parce qu'on l'attend là aussi, le Belge. Et malheureusement, cette Inter équipe type, pourtant, n'a pas répondu présent. C'est la deuxième saison de rang, quand même. Rappelez-vous, la saison dernière, dernière PSV, journée aussi. Inter PSV d'un côté, Barcelone Tottenham de l'autre. Inter doit juste taper le PSV.
Sauf que l'Inter, l'année dernière, ils n'étaient pas en tête de la Serie A.
Là encore, ils avaient leur destin entre les pieds, quand même, pour se qualifier pour les huitièmes. Et 2 années de suite, ils ne le font pas.
Philippe, c'est...
Oui, c'est très, très décevant.
C'est surprenant,
mais...
en tout cas.
Oui, en même temps, j'avais un peu jeté un œil à cette équipe de l'Inter. Comme je voyais qu'au classement, ils étaient bien. J'ai regardé les deux dernières semaines. Et c'est une équipe un peu amortie en ce moment. Ce que j'ai vu n'est pas très emballant. Ce n'est pas une équipe dans une bonne dynamique.
Pourtant, ils ont un Lautaro Martinez qui,
qui se repose sur des flambeaux.
Elle a confirmé hier que ça demeure extrêmement moyen et qu'effectivement, une équipe B de Barça qui s'entraîne très, très bien tous les jours et qui joue très, très bon football tous les jours à l'entraînement, c'est meilleur que l'Inter. Voilà, c'est tout.
En tout cas,
c'est sévère, mais juste.
Ce Barça B, il y avait, on le disait, Todibo et Umtiti qui sont plus les titulaires actuellement, pour ce qui est en tout cas d'Umtiti. Et puis, il y avait la petite merveille qui sort de temps en temps et qui l'a été de sortie et qui a fait merveille, Ansu Fati.
Ouais, ça fait quand L'histoire s'écrit sous nos yeux. Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Un but pour l'histoire, mais un but terrible parce qu'il enterre l'Inter Milan ce soir officiellement.
C'est rock.
Ouais, il sort de l'école, Ansu Fati. Effectivement, 17 ans et 40 jours, ça en
fait... Quasiment l'âge de Dominique.
Ça en fait le buteur, le plus jeune de la Ligue des Champions de l'ère moderne. Pierre Guérin a cherché. Il y avait eu un Ghanéen, Peter Ofori Kwai, 17 ans, 195 jours en 1997 avec l'Olympiakos qui avait marqué. Et avant lui, un certain Lubanski, un Polonais qui avait marqué en 1963, il avait 16 ans et 258 jours.
Le français, c'est Karim Benzema, je crois, qui est le plus jeune.
Aussi, effectivement, en Ligue des Champions. Ansu Fati, alors vous le disiez, Salim, mais peut-être que vous allez être d'accord, on a peut-être vu là, hier, ce Barça B qui est le Barça du futur, Philippe ?
Non, je ne pense pas, parce qu'il faut, il faut raison garder, il y a à la fois des jeunes très très prometteurs et Ansu Fati en fait vraiment partie. Après, il y a d'autres joueurs qu'on verra beaucoup moins. L'équipe, c'est pas l'équipe du futur. C'était pas une équipe volontiers jeune. C'était un mélange avec le vieux gardien, comment il s'appelle, Neto. Bon, tout ça.
Non, mais certains joueurs qu'on risque
bien de
revoir.
Il y a quelques joueurs qu'on peut revoir, mais vous savez, l'exigence dans ces clubs-là, elle est terrible. Hein. Ouais. Il y a peu de joueurs, des Mbappé et autres.
Malcolm,
Il y en a pas des masses, des Mbappé ou autres qui émergent dans un grand club et qui arrivent tout de suite au sommet ou au très haut niveau. C'est quand même très très rare. Et Ansu Fati, je pense qu'il a peut-être cette qualité pour y arriver, mais peut-être seulement, parce que méfions-nous, tous les ans on annonce Sancho, machin.
Et surtout,
des futurs génies,
partout, on a dit Vinicius, on a dit Dybala, on a dit Asensio, on a dit Isco, on a. On les a tous
dit. Gabriel Jesus.
Et l'année d'après, on a déjà oublié leur nom. Donc, il faut se méfier quand même un peu.
Oui, ou surtout, on a perdu de vue leur talent. L'Inter qui pleure, donc, et le Borussia Dortmund, vous le disiez, Salim, qui rit.
Lulu Favre.
Dortmund, eh bien, on va l'écouter, Lulu, parce que Dortmund a réussi à battre le Slavia Prague. Alors, ça a été dur. Hier, je me souviens très bien que Nabil Djelit n'arrêtait pas de dire attention à ce Slavia, parce qu'il a été vraiment la teigne de...
Durant toute la compétition. Ouais. C'était exceptionnel.
Comme quoi, il ne faut pas se moquer des points. Ils ont fait que 2 points. Non.
Ils ont le fait plus que Lille. Bon, c'est pas dur.
Et Slavia Prague a fait que 2 points. Mais dans le jeu, ils ont été intéressants tout au long du parcours. C'est le petit du groupe. Ça reste le petit du groupe.
Ils sont quand même allés prendre juste 1 point au Camp Nou. Et ce jour-là, le Barça, c'était pas le Barça B.
Non, tout à fait.
Exactement.
L'équipe B est meilleure.
Comme quoi, ici, sur côté.
Non, mais comme quoi, même Salzbourg, dont on parlait tout à l'heure.
Il n'est pas bon.
Tout à l'heure, quand on parlait de Salzbourg, c'est vrai qu'il y a des équipes comme ça qui nous auront marqué dans cette période, même si elles n'ont pas beaucoup marqué de points. Donc 2-1, résultat final, et Lucien Favre, on l'a vu sauter dans les bras de ses adjoints au coup de sifflet final, il était sans doute un brin soulagé.
C'est vraiment fantastique de se qualifier pour les huitièmes de finale. On est sorti d'un groupe difficile avec Barcelone qui est premier en Espagne et devant l'Inter qui est en tête de Serie A devant la Juventus. On s'est qualifié aux dépens du Slavia aussi. Le Slavia, c'est une très très bonne équipe. C'était un match fou, ça allait et venait et les deux équipes avaient des occasions de marquer.
Une qualification avec un match de fou qui sans doute relance l'entraîneur suisse du BVB, Salim.
Ah, ben lui qui était plus que critiqué, tensé, et même on se posait des questions, pourquoi pas pour le prochainement le licencier, même s'il y avait une victoire en championnat, c'était le week-end dernier. Hier, il est quand même heureux. On parlait il y a quelques minutes de Salzbourg-Liverpool où c'était un beau match de foot avec des opportunités de chaque côté où on avait envie de jouer. Hier, Prague était déjà éliminé. Prague ne pouvait même pas être troisième. Pourtant, Prague a joué le coup à 100%. Dortmund devait aussi gagner, donc c'est parti dans tous les sens. Et Favre, il peut aussi remercier Roman Mourki qui hier, le gardien suisse, a été exceptionnel. Il a réalisé 3-4 parades de très 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 grand talent. Mmh.
Le BVB, à ce niveau-là, nous on se souvient du BVB de l'époque où ils avaient battu le Real, hein, n'est-ce pas
Notamment avec, ouais. Lewandowski, hein,
avec Lewandowski. Mais
moi je ne suis pas surpris outre mesure en fait. Quand j'ai au tirage au sort, je m'étais dit quand même que Barcelone et Dortmund avaient plus de chances que l'Inter de passer. Donc on est revenu à une forme de logique finalement. Oui. On savait qu'un gros allait tomber. Parce
mais
que
Antonio
moi,
Conte était peut-être une valeur
c'est,
un
alors
peu,
c'est ça hein. qui faisait basculer parce que Antonio Conte est un entraîneur important, voilà, oui. C'est une des stars des bancs
beaucoup,
européens, donc mais ça me paraît encore logique que l'Inter soit derrière Dortmund. Dortmund est un plus grand club avec une permanence au plus haut niveau qui est sur la durée, qui est en ces dernières années, qui est beaucoup plus importante que l'Inter, qui est un club de haut et de bas.
Mais
de...
Italie-Allemagne, c'est le même, c'est ouais, à peu près le même rang.
L'Allemagne,
ils sont très
maintenant.
Très proches.
Non, je pense que le Bayern.
Classement UEFA, ils sont pareils.
Ouais, mais le Bayern et le et Dortmund, c'est un peu. Derrière la Juve, il n'y a pas de deuxième, quoi.
Il y a probablement, en tout cas en expérience européenne récente, évidemment, ouais. Dortmund, effectivement, a un petit avantage sur l'Inter. Bon, ça s'est joué à rien, mais le fait est que ouais. l'Inter voilà. a à nouveau raté la qualif.
Et voilà un gros l'Inter Milan pour la Ligue Europa, hein.
Gros sur le papier. Après, j'attends de voir.
Dépend, si
on verra dans la volonté.
Est-ce que voilà, Conte voudra jouer en sachant qu'il y a le championnat et son premier, qu'ils ont peut-être un coup
deux
historique
points d'avance
à faire
sur la Juve
en championnat.
Effectivement.
Il faudra voir ça pour.
Pour rompre un peu ce
hein. le cycle turinois.
Oui, le cycle turinois qui dure depuis déjà longtemps. On est en Italie, et bien on va y rester parce que l'Inter a été éliminé et Naples s'est qualifié. Il devait d'ailleurs gagner hein, ce groupe de Naples contre le club belge de Genk. Ils les ont battus assez facilement 4-0. Au San Paolo, un San Paolo à moitié vide qui donnait déjà le ton d'une ambiance très particulière. Il y a eu un triplé de Milik et un but de Mertens. Mais à peine fini les conférences d'après-match, la nouvelle, qui n'en est pas vraiment une, on va y venir, eh bien, a été officialisée. Carlo Ancelotti était viré par son président De Laurentiis. Quel remerciement. Matteo Cioffi, vous êtes en direct avec nous. Bonjour Matteo.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors Matteo, hein, vous nous avez donné la primeur de cette décision hier révélée par Sky en Italie avant que ça ne fasse le tour des réseaux sociaux. D'abord, comment a été commentée et accueillie cette nouvelle en Italie, dans la presse, voire au-delà, parce que Carlo Ancelotti, c'est un tel personnage.
Oui, Carlo Ancelotti, c'est un personnage très aimé par l'opinion publique et donc la presse, comme prévu, a durement attaqué Aurelio De Laurentiis, coupable de n'avoir pas su ramener le calme après la tempête. Pour Gazzetta dello Sport, le titre ce matin résume en plein ce qui s'est passé. Gazzetta écrit « fuori », c'est-à-dire « dehors ». Et on lit ce mot à côté des images de Lautaro Martinez de l'Inter, qui est fuori, dehors, et Carlo Ancelotti, qui lui aussi est fuori, dehors. Mm-hmm. La Repubblica, de son côté, a écrit que mettre à la porte le Tunisia représente un geste totalement fou de la part d'un club qui se prive d'un entraîneur précieux et lui préfère quelqu'un qui n'a pas encore montré son habileté dans ce rôle.
Matteo, tout ça était écrit malgré tout parce qu'on avait suivi ces derniers temps et notamment avec vous cette bagarre qu'il y avait entre les joueurs et leur président et Carlo Ancelotti là au milieu. Certains disent même en Italie finalement le Naples de ce président ne méritait pas un tel entraîneur.
En effet, la situation était devenue insoutenable surtout pour Carlo Ancelotti qui a saisi l'effet d'être désormais isolé. Et voilà donc que quand dimanche dernier il a déclaré en conférence de presse qu'en cas de licenciement, sa valise sur le paillet était déjà prête, alors on a tous compris quel aurait été son destin et son triste sort. Il reste toujours ce degré d'étonnement à voir un entraîneur être mis à la porte après s'être imposé 4-0 et avoir conquis les huitièmes de finale qui enrichissent de 20 millions d'euros les caisses du club.
Et Matteo, la raison selon laquelle pour vous tout s'est dénoué hier soir, quelle est-elle ?
La raison est toute simple. Carlo Ancelotti était en conflit avec ce joueur. Le technicien, il y a une dizaine de jours, avait lancé un cri de détresse qui était tombé dans le vide. Le joueur se sont pris à Carlo Ancelotti au moment où le technicien les a voulu rappeler à l'ordre, car soulignons qu'en championnat, l'équipe du Napoli ne gagne pas depuis 7 matchs d'affilée. Et donc, l'attention, surtout avec quelques-uns, et c'est le cas de Lorenzo Insigne, était vraiment très, très élevée, et remonte au début d'octobre quand l'entraîneur avait décidé que le capitaine n'était pas en forme et donc ne méritait pas d'être considéré, a priori, un titulaire fixe de l'équipe. Là, tout a commencé à basculer.
Mais oui. Philippe Doucet, c'est vrai que les joueurs, malgré tout, hier, ont signé cette victoire, et cette fameuse victoire, mais on sentait presque dans l'air, on voyait Ancelotti, qui était sûrement plus élégant que jamais, qu'il y avait quelque chose de différent.
Je crois qu'il a suffisamment de brioche et d'expérience pour sentir les choses. Il le savait. Il le savait, Carlo Ancelotti. Et d'ailleurs,
nous aussi.
C'est une évidence puisqu'il a été viré malgré une victoire 4-0. Ça veut dire que tout était décidé avant et il le savait. Et je pense qu'il a passé l'âge aussi de s'ennuyer avec des gens qui ne l'intéresse pas, et à partir du moment où il a des problèmes avec des dirigeants et autres, il ne se bat plus. Je crois Carlo Ancelotti, j'ai cru comprendre dans les dernières au Bayern, ça a été un petit peu la même chose. Je crois qu'il a pu... Alors peut-être que certains diront, c'est la fin, il a plus la grinta, etc. On peut l'interpréter aussi en se disant qu'il a plus envie de s'emmerder, entre guillemets, avec des gens qui ne l'intéressent pas, qui lui mettent la pression à la moindre défaite ou autre. Il n'a plus envie de ça. Bon, du coup, il part. On a l'impression qu'il part en se disant c'est vraiment pas grave du tout.
Oui, et
pas
un peu
grave
tête
du tout,
haute.
Je passe à autre chose. Ouais.
C'est ce qu'il avait fait un peu en quittant le Paris Saint-Germain aussi.
Il
n'avait pas envie de se laisser embêter par des dirigeants.
Ouais,
il mettait la pression sur des résultats.
Il est parti parce qu'il avait une proposition du Real Madrid et que ça ne se refuse pas. Il l'avait déjà refusé une première fois. Donc le train, il s'est dit va pas ces 50 fois. Et il est vrai aussi, vous avez raison Annie, que la manière dont Leonardo et Nasser El Khelaifi lui ont parlé, notamment après une défaite à Reims dans un petit bureau, en lui disant que ce 1-0 c'était la dernière fois que ça arrivait en championnat. Carlo, avec ses deux Ligues des Champions comme joueur et ses deux Ligues des Champions comme entraîneur, il s'est dit vous êtes sûr là que vous me parlez comme ça et ça va durer longtemps. Donc
c'est
il est parti très fâché avec Nasser et avec Leonardo.
Donc il reviendra pas là.
Moi, pour moi, ça c'est impossible. Après, dans le foot, j'en ai vu d'autres, mais pour moi, il a une telle, il a un tel mauvais souvenir des deux personnages qui sont encore les deux hommes forts du club aujourd'hui. Il se trouve que c'est comme ça aujourd'hui. C'était pas le cas il y a 6 mois, mais Leonardo est revenu. Que ça me paraît compliqué. Après, c'est l'énième soubresaut d'un club qui est en crise depuis assez longtemps. Le président voilà, il a ses sauts d'humeur, il est assez mégalomaniaque.
Il change souvent d'entraîneur.
Il y a quand même eu des joueurs qu'on refuse. Il refusait d'aller à une mise au vert. L'entraîneur a dit qu'il les comprenait, mais lui, il s'y est rendu parce qu'il était un peu obligé. C'était une décision de son patron. Donc, on l'a vu avec sa petite valise rentrer au centre d'entraînement.
Toujours prête, la valise.
Oui, toujours prête. Mais là, c'était pour y aller. Il était tout seul puisque les joueurs ont refusé sous l'impulsion d'Alan, notamment, qui désormais va être sur le marché parce que là, le mercato d'hiver va être terrible. On dit que Mertens.
Que tout le monde veut partir, effectivement.
Alan sont sur le départ. Donc,
c'est une saison
idéale
pour vendre.
L'Ajax aussi va peut-être vendre, d'ailleurs.
C'est direct. Il y a 18 minutes précisément, tweet officiel de Carlo Ancelotti qui a ainsi, et je le traduis en français, « Tous mes remerciements au club, à ses employés, à mes joueurs, à mon personnel et au président pour l'opportunité qui m'a été donnée de vivre une expérience formidable dans une ville merveilleuse comme Naples, Forza Napoli pour toujours. » Il a toujours cette diplomatie, évidemment.
Il a juste changé les trois derniers mots du dernier tweet qu'il avait fait
en sortant
du Bayern. Sorti les trois derniers mots pour mettre Napoli à la place.
Il était au PSG. Il était à Chelsea avec Abramovich. Il a connu des personnages, des sacrés loulous.
Oui, c'est vrai aussi.
Matteo, une dernière petite question. On l'envoie où, Carlo Ancelotti, actuellement? À Londres ou à Milan?
Pour l'instant, je crois qu'il va rester chez soi en Provence de Reggio Emilia et regardera les matchs à la télé et il écoutera la radio, ce sera surtout Radio Foot International.
Bien sûr, il comprend très bien le français polyglotte.
Non, mais en tout cas, en Angleterre, on ne parle que de Carlo Ancelotti.
Arsenal.
D'ailleurs, pour deux clubs. Ouais. Parce qu'il y en a un qui a aussi de l'argent, c'est Everton qui est évoqué. Et donc, évidemment, Arsenal. Aujourd'hui, il y a Freddy Ljungberg qui est intérimaire. Mais Arsenal, c'est un nom peut-être qui pourrait scier à Ancelotti et vice-versa, surtout.
Matteo, dites-lui hein, qu'on se l'arrache du côté d'autres championnats et qu'il n'a pas à s'en faire.
Et West Ham aussi, hein, bientôt qu'il aura besoin d'un entraîneur.
Avec ses beaux costumes bleus, trois pièces. À bientôt. Ciao, Matteo. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne soirée.
Ce soir, il n'y aura que deux places à se disputer. Les jeux sont faits dans presque tous les groupes et l'heure est plutôt donc aux équipes bis, comme le fera notamment le Real. Les deux places qui pourraient aller a priori, alors l'une, ça serait à l'Atlético qui reçoit le Lokomotiv Moscou au Metropolitano dans le groupe B où la Juve est déjà qualifiée. Et puis on a le groupe C de Manchester City, déjà qualifié, qui ira jouer à Zagreb, mais là peuvent se qualifier le Dynamo Zagreb et Shakhtar Donetsk qui recevra l'Atalanta Bergamo. Gamme, un vrai suspense ou un faux suspense?
Même l'Atalanta peut se qualifier.
Oui, exactement, les trois.
Justement, là, pour le coup, le suspense dans ce groupe-là existe vraiment. Et Bergame s'est relancé. Si...
C'est l'autre groupe, genre Lyon, quoi.
Mais celui qui a l'ADN.
Même si là, il y a un gros, très quand même un gros, et puis il y a trois équipes.
Le gros, mais peut-être que Shakhtar Donetsk, qui est un abonné presque de ces huitièmes de finale, a un ADN un peu Ligue des Champions.
Oui, enfin, ils y sont.
Pour sortir de la poule.
Ils y sont allés trois fois, faut pas non plus exagérer.
En tout cas, des histoires européennes.
Une fois sur deux.
Ils sont toujours dans le coin européen.
L'Atalanta, c'est la première fois qu'elle se qualifie.
C'est la première fois qu'il participe.
Première fois de son histoire.
Ça, c'est un autre problème. Non, Shakhtar Donetsk, effectivement, a quand même quelques références. Ils sont allés trois fois en huitième, même une fois en quart en 2010 ou 2011, même, pour être précis. Mais, bon, malgré tout, ce sont quand même des équipes qui baissent plutôt de niveau qu'elles n'augmentent. Les écarts.
Qui subissent aussi les problèmes géopolitiques.
Les problèmes géopolitiques. Ils ne jouent pas chez eux, bien évidemment. Depuis ils n'ont longtemps. Pas joué à Donetsk depuis des années. Le stade
leur
est en partie
réduite,
détruit. En partie en miettes, je crois pas. Mais enfin, bien touché. Le stade est bien touché. Il a été bien touché. Ils jouent à Kharkiv, donc bien loin de chez eux. Bon, on pense qu'ils peuvent accrocher la qualification, mais après, ça fera partie des petits poussets en huitième de finale.
Un petit hors-sujet, Annie, cette sixième journée de Ligue des Champions prouve que tous ceux qui veulent des ligues fermées, cette épreuve-là, elle continue à rester intéressante. On a parlé de l'Ajax, de
cette
Lyon.
Année, elle l'était, oui.
Bah oui, non, mais voilà, il y a des matchs ce soir encore.
Hier, il y avait six places à prendre.
Ça prouve que jusqu'au bout, la formule peut être intéressante pour voir des matchs à suspense.
Alors, ceux qui jouent pour rien ce soir, ça rime, c'est les Parisiens, n'est-ce pas? Enfin non, pour rien, ils sont déjà premiers et ils ont déjà leur billet. Non, mais on va être d'accord, Salim. Parce qu'ils vont peut-être d'abord jouer pour régaler le Parc des Princes.
Il serait temps. Hein,
ça serait une bonne idée.
Il serait temps, on est le combien? On est le 11 décembre.
Ce PSG, premier de son groupe, quand on va les voir contre Reims, on est un peu surpris, surtout si on aime le stade de Reims, on se dit, je ne suis pas venu pour rien. En tout cas, ce PSG, on a l'impression que peut-être qu'ils inventent des problèmes, en tout cas nous, on leur en trouve. Et la question, c'est est-ce que Thomas Tuchel arrive encore à diriger ou pas ses stars, à les maîtriser, ses stars? Alors, on a tous vu, en gros plan, bien sûr, vu et revu, la tête de Kylian Mbappé quand il est sorti remplacé à la 89e minute quand son équipe gagnait sur le score de 3-1. Et Thomas Tuchel, on va le réécouter, mais parce qu'on lui repose évidemment la question, il en a reparlé de ce petit incident qui, pour lui, n'est qu'une histoire entre un entraîneur et un joueur.
Il veut toujours gagner, il n'aime pas de sortir, mais il doit accepter, c'est mon choix. Il doit accepter, c'est aussi nécessaire de montrer le respect pour les gars qui rentrent. Je suis entraîneur, je dois faire la possibilité de laisser sortir et rentrer que je veux, que je demande pour nécessaire. Et les joueurs acceptent et c'est pas un problème.
Alors, c'est pas un problème. Nous, on a l'impression que c'est un problème. Dominique, qu'est-ce qui se passe, en fait? Tuchel et la méthode des abrazos, comme on dit, du côté des latinos, mais notamment avec Neymar.
Ou les hugs, en Angleterre.
Voilà, les hugs. Enfin, bon.
Les câlins, en français.
La calinothérapie a-t-elle eu ses limites?
Je crois qu'il a une relation contrariée avec au moins deux stars de l'effectif, Cavani,
pas les plus petites.
Cavani et Mbappé. Ah bon. Avec Neymar, sa relation est fluctuante. On nous dit du côté du Brésilien que ça va à peu près avec Tourelle. Au départ, c'était le grand amour. Hein. Ils se sont rencontrés
à Londres.
Il fait
ce qu'il veut aussi, Neymar, en fait.
Oui, bah, il me semble qu'il continue à faire un peu ce qu'il veut. Mais là, c'est plus un problème de club et l'institution qui dépasse le cadre de l'entraîneur. Concernant la relation directe entre Cavani et Mbappé, il y en a un qui considère qu'il est...
Tourelle Mbappé.
Ouais. Il y en a un qui considère que
Philippe suit.
Cavani considère qu'il n'a pas le crépuscule qu'il mérite par rapport à ce qu'il a fait depuis 2013, depuis 6 ans, et il considère qu'on le jette un peu à la poubelle après avoir donné beaucoup de bonheur au club. Et il y en a un qui considère que l'entraîneur le ramène toujours à son âge. Et si vous, il faut être vraiment être resté dans une grotte pendant 8 ans pour pas savoir que Mbappé déteste qu'on le réduise à son âge, qu'on le ramène à son âge.
Non, on le sait. Donc on dira pas quel âge il a d'ailleurs.
Voilà, c'est le 20 décembre son anniversaire. Si vous voulez lui citer. Et donc, il n'en peut plus et il pense que ça tombe sur lui les changements parce qu'il a 20 ans, parce que voilà, il pense que le traitement à Bruges, il est remplaçant, il pense que c'est parce qu'il a 20 ans, il pense qu'il n'est pas traité comme Di Maria, comme Neymar.
Mais c'est un jeu dangereux pour le PSG que Mbappé ne soit pas content. Parce que là, si je me trompe pas, ils aimeraient bien le garder pour longtemps.
Il est pas content. Moi, je l'ai vu faire un but et une passe décisive à Montpellier dans un mauvais match, mais il les a quand même faites. Je l'ai vu faire un triplé à Bruges.
Oui. Et ça, c'est quand il est pas
une
content.
Une majeure incroyable.
Donc c'est
une tactique de l'entraîneur.
Alors c'est possible. Il se trouve que Mbappé, quand vous le piquez un peu, ça marche bien. Donc Deschamps aussi utilise ça, mais après c'est pas du tout la même psychologie. Deschamps lui explique en amont les choix qu'il va faire. Il lui explique longuement. Tourelle n'est pas quelqu'un qui explique beaucoup.
Et puis il a été champion du monde avec Deschamps, donc voilà. Il ne peut que le.
En tout cas, Tourelle, c'est comme ça, et il n'y a pas trop d'explications autour. Donc ça, Kylian Mbappé a besoin, lui, qu'on lui explique les choses. Il aime bien être dans l'échange. Tourelle, il n'y en a pas tellement.
Mbappé.
Après, ce n'est pas une raison pour bouder quand on sort.
Ouais, Salim. Oui, vous défendez qu'on peut le comprendre, n'est-ce pas?
Mais il a une mauvaise gestion de ses émotions.
Ça passe mal auprès du public.
Séquence-là, il a dégradé son image. Après, moi, je me dis, dans 2 mois, s'il met un triplé en 8e de Ligue des Champions, je pense que les gens, ils auront oublié qu'il a boudé lors de deux sorties. Hein.
Vous avez parfaitement résumé les choses, Dominique, comme d'habitude. C'est vrai que.
On répond sur le terrain, c'est ça.
Oui, j'ai mon chéquier.
Non, mais c'est un fait. À un moment donné, il y a des choses, c'est que.
Il a sorti son chéquier.
Non, mais c'est vrai que Mbappé, c'est vrai que cette image est très vilaine. En plus, lui qui fait très attention à sa communication et à son image, justement, c'est vrai que c'est très étonnant de le voir.
Ouais, mais
ainsi.
On les connaît, ces sautes d'humeur. On se souvient de son fameux discours en discours de fin d'année l'année dernière au mois de mai. Là.
Bien sûr, mais on se dit même, d'ailleurs, à un moment donné, alors c'est presque pervers de ma part, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas calculé de sa part de se dire, je vais
faire semblant
et comme ça les caméras vont voir qu'il y a peut-être que Tourelle m'agace, entre guillemets. Hein,
Là, il est comme un gamin qui essaye de.
Je crois qu'il est vraiment. Il sait qu'il y a des caméras, mais il est vraiment. Il pense à autre chose. Je pense vraiment qu'il est dans une mauvaise gestion.
Penser à autre chose. Parce qu'il est tellement précis, méticuleux sur sa manière de faire.
Il est simplement sur dans l'émotion. Son émotion le prend le dessus sur sa réflexion à ce moment-là.
Philippe, comment vous voyez cette. Épisode de la vie parisienne.
Bon, c'est pas gravissime tout cela, mais évidemment, il faut quand même ramener.
Ils sont premiers, ils sont qualifiés.
Ils font ramener un petit peu à l'échelle, mais c'est vrai que.
Mais ça dénote quelque chose quand même.
Bah, ça dénote que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le même défaut ressort, c'est-à-dire dans ce club où les joueurs se permettent des choses que peut-être ils atténueraient ailleurs ou n'oseraient pas franchement ou vraiment dans le cas de grosse crise, mais pas pour sortir à la 90e minute à Montpellier. Tant que les joueurs considéreront qu'ils peuvent se permettre ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sentent qu'ils peuvent se permettre vis-à-vis de l'institution club, qu'ils peuvent se permettre vis-à-vis de l'entraîneur. C'est gênant, c'est un peu dérangeant. S'il y a vraiment quelque chose de profond derrière, c'est évidemment dérangeant et c'est dommageable. Si c'est juste une petite saute d'humeur de petite star, c'est pas très grave.
C'est Conte qui était à Chelsea avant Lampard?
Oui.
Kepa avait refusé de sortir.
Non, c'est Sarri.
Sarri, il avait refusé de sortir sous Sarri. Sarri, c'est quelqu'un de respectable. Chelsea, c'est une institution, donc il faut faire attention.
Kepa, le gardien.
Oui, Kepa, il a refusé de sortir. Donc c'était encore plus grave, je trouve.
Oui, enfin, 118e minute avant des tirs au but, c'était un truc un petit peu. Et puis, une incompréhension. C'est un petit peu différent. Kepa n'est pas encore une star, d'ailleurs.
On les regardera à la loupe ce soir s'ils régaleront le Parc des Princes, ces joueurs du Paris Saint-Germain, face à Galatasaray. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs, les courageux qui arrivent quand même au studio de RFI. Merci aussi à Pierre Guérin et Thomas Moulin, ainsi que Thibaut Baduel. Demain.